Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, dans l'émission Bien-être au quotidien, nous allons évoquer l'ashram, le séjour à l'ashram dans le Kerala. Donc effectivement, en février, je suis partie avec un groupe de 15 personnes dans ce petit ashram où je suis restée 5 ans, il y a 3 ans maintenant, pour leur faire découvrir la vie à l'ashram et leur faire découvrir aussi l'Ayurveda, leur faire découvrir le yoga, la méditation pour certains qui ne connaissaient pas ni le yoga ni la méditation. Ils profitaient de deux soins ou d'un soin par jour, d'un massage à Abhyanga par jour. Ils rencontraient au départ le médecin ayurvédique de ce petit centre ayurvédique et tout au long de ces 15 jours, ils étaient suivis par le médecin ayurvédique. Donc aujourd'hui à cette émission, j'ai invité donc Julie et Katia qui sont là pour me poser des questions sur ce séjour. J'ai pensé que ça serait plus vivant et bon, si vous voulez poser des questions, vous pouvez aussi. Mais Julie et Katia donc vont se présenter et vont poser des questions sur ce qu'elles veulent savoir de ce séjour de 15 jours. Dans le Kerala, au bord de la mer, dans un petit ashram.
Donc, bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Julie. Je suis masseuse ayurvédique et je fais aussi du Reiki. Voilà, donc je vais essayer pour ma part de poser des questions qui peuvent répondre aux questions que tout le monde se pose. Voilà, je vois quelque chose d'un peu plus général pour que voilà, ça puisse faire connaître un petit peu l'ashram. Voilà, parce que c'est ce qui m'intéresse, voilà, faire connaître ton travail aussi.
Merci.
Voilà, Swami aussi. Donc voilà, je vais tâcher d'essayer de faire quelque chose de général.
Donc bonsoir à tous et à toutes, moi c'est Katia, je suis praticienne bien-être médium. Je suis aux côtés de Catherine et de Julie ce week-end pour me former en massage ayurvédique et à l'ayurveda en général. Et également ce soir, j'espère pouvoir vous éclairer en posant des questions également pertinentes. Voilà, je ne suis jamais allée en Inde, j'espère avoir l'honneur d'y aller très bientôt avec Catherine et avec d'autres personnes et faire de belles rencontres et vivre de belles expériences là-bas.
Voilà.
Merci à vous deux. Est-ce que vous pourriez dire où vous êtes situées toutes les deux ?
Alors moi, je suis donc à côté de Montpellier, un petit village qui s'appelle Cournonsec.
D'accord.
Voilà, dans le sud de la France.
Et donc moi, je suis à Bordeaux, en Gironde, en France.
Voilà, bon, très bien. Alors, je vous écoute, hein, au lieu que je parle toute seule sur ce séjour. Bon, après, je pourrais peut-être rajouter quelques anecdotes, mais je vous écoute sur les questions. Qu'est-ce qui vous intéresse d'aborder ce soir ?
Alors moi, j'avais pensé à une première question qui me paraît assez évidente. C'est qu'est-ce que c'est un ashram ? Que veut dire le mot ashram ?
Alors, le mot ashram, en fait, en Inde, ce sont des petites communautés de vie où il y a ce qu'on appelle, alors, quelquefois c'est un swami, c'est plutôt un gourou, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est celui qui dirige un peu la communauté.
Un guide spirituel.
Un guide spirituel. Gourou, il a, c'est celui qui a du poids.
Ouais.
C'est celui qui a du poids et c'est celui qui a du poids face à la communauté. Et c'est vrai que ça peut être un guide spirituel. Donc, Julie, tout de suite, elle nous amène dans le côté... En fait, un ashram, c'est une communauté de vie. Et c'est une communauté de vie en Inde. En fait, la spiritualité est là toujours au quotidien. C'est une communauté de vie spirituelle. Et c'est vrai que dans, je suis allée dans plusieurs ashrams, dans le sud, dans le nord. Et chaque ashram a sa particularité. Et la particularité de ce petit ashram dans le sud de l'Inde, du Kerala, c'est donc l'Ayurveda. C'est d'abord une clinique ayurvédique avec une équipe de masseurs, avec un médecin ayurvédique qui est le swami. Et puis, c'est aussi yoga et méditation tous les matins et pranayama, hein, dans le style Shivananda. Mais je suis allée par exemple dans des ashrams dans le nord, hein, à Rishikesh, à Haridwar, où en fait, là, il y avait des ashrams où on passait notre temps à chanter des mantras. Mmh. Et nuit et jour, eh bien, des gens chantaient des mantras. Et autrement, la petite communauté vivait en restant dans la communauté pour que tout se passe bien. Mais vraiment, le centre de la communauté, c'était de chanter des mantras. Donc, chaque ashram a sa particularité. Quand vous allez dans l'ashram d'Ama, par exemple, eh bien, vous avez là... une grosse communauté, vous avez une clinique, vous avez des gens, des Européens qui viennent de partout. Mmh. Et vous avez plein de possibilités de réflexion, de méditation, du yoga, d'activités proposées. Okay. Est-ce que c'est clair pour
oui,
vous
oui, oui, très, très clair, merci.
Bon, alors allez-y, si vous avez d'autres questions.
Moi, j'ai une question. Bon, je pense que tu as peut-être un petit peu répondu dans la réponse que tu viens de faire, hein. Mais quel est, par exemple, comment s'articule une journée type dans l'ashram ?
D'accord. Alors, effectivement, Katia, tu as raison. J'ai répondu en partie dans le sens où j'ai dit que chaque ashram est différent. Donc, il y a un emploi du temps pour chaque ashram, quoi, à la limite. Mais je peux parler de l'ashram où je suis allée. Et ça, donc, en fait, même si vous allez dans un ashram, même tout seul, alors j'emmène des groupes parce que c'est pas si facile quand on arrive. Moi, ça m'est arrivé en pleine mousson d'arriver dans cet ashram où il y avait quelques personnes qui parlaient anglais, mais la plupart parlaient malayalam, c'est-à-dire la langue du Kerala, la langue d'Amma aussi. Et en fait, comment s'adapter au début, c'est pas facile. Alors, ce que j'ai compris, c'est que le matin, on avait du yoga à 5h du matin. Donc, on se levait à 4h30 pour être à 5h sur le tapis avec Swami qui est prof de yoga, qui est yogi, qui a passé du temps dans les ashrams dans l'Himalaya avec des sages indiens, aussi dans l'ashram de Shivananda qui a été prof de yoga chez Shivananda. Donc le matin on commençait avec Swami qui nous faisait un cours de commencer par une demi-heure de méditation, une demi-heure de pranayama. Et puis après, on avait une demi-heure, une heure de pranayama. Oui, ça durait longtemps parce que, pour rentrer vraiment dans le pranayama qui est l'art du souffle. Et puis après, c'est 3h30 après, à peu près, de yoga, on finissait vers 8h30. Eh bien, on avait le chai que la mère avait préparé, ça c'est important.
C'est typique.
Hein, ça c'est typique et c'est important.
Ça c'est le petit bonheur. Ça.
Voilà, le petit bonheur après les 3h30 de yoga où on n'a pas mangé, on arrive à jeun, ça se passe très très bien, ça passe très vite avec les animaux qui sont avec nous, les chiens, avec l'accent indien, avec les chants, avec les indiens qui téléphonent de temps en temps, avec c'est un cours de yoga à l'indienne très vivant, quoi.
Voilà, l'authenticité de l'Inde.
De l'Inde.
C'est vraiment...
Alors là, après, on mange. On a le repas, le premier repas de la journée vers 10h30. Et puis, après, on va que chacun ses occupations. Donc, on est renvoyé à soi-même. Donc, il y a Swami avec son équipe qui prépare des médicaments. Il y a la sœur du Swami qui est à la pharmacie. Et nous, alors, soit on prend un soin, on peut prendre un soin. Soit on suit l'équipe qui prépare des médicaments. Soit on les aide aussi. Soit on va se baigner. parce qu'il y a la mer juste à côté.
Et les dauphins.
Oui, alors quand on a la chance de voir les dauphins. Et puis, après, la journée, elle se passe, en fait, différemment à chaque jour, parce que à chaque fois, tous les jours, à l'ashram, il y a des choses différentes qui arrivent. Il peut y avoir un autre swami qui peut arriver. Il peut y avoir... le swami aussi est médecin, donc il reçoit beaucoup de monde. Donc, ça m'est arrivé aussi de rester pour les consultations, même si je ne comprenais pas la langue, mais je voyais ce qui se passait, et d'aider pour les consultations. Après, ça m'est arrivé d'aider pour les massages. Et puis, à l'ashram, en fait, il y avait le yoga le matin. Et puis, dans la journée, on vaquait aux différentes occupations. Et le soir, quelquefois, Swami faisait une leçon sur l'Ayurveda. Un enseignement, en fait.
D'accord. Donc, toi, Catherine, tu traduis, puisque je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas ou qui ne comprennent pas l'anglais, puisque Swami...
Il parle anglais,
il
oui.
parle anglais. Donc, est-ce que toi, il y a possibilité que tu traduises en fait.
Voilà. Alors, pendant le séjour, parce que là, je parle quand même du séjour, eh bien, pendant le séjour, on avait quand même plus d'activités et c'est vrai que je traduisais. Alors, par rapport aux activités, donc, c'est qu'on apportait pour le séjour, eh bien, après, donc, chacun pouvait avoir un soin. L'après-midi, je redonnais un cours de yoga où les gens pouvaient me poser des questions sur ce qu'ils n'avaient pas compris le matin ou s'ils avaient envie d'approfondir un point. Et puis, on avait aussi des propositions de visites, de temples, s'il se passait quelque chose dans un temple. Et puis, c'était la période des festivals en février, donc on les emmenait à droite et à gauche. Et puis, les gens aussi pouvaient aller au village par eux-mêmes. Et puis aussi, on allait à Fort Cochin, on allait à Cochine, on allait une fois à la jungle. Bon, on a fait quelques sorties comme ça, quoi.
D'accord.
Mais à tout moment, en fait, Swami... disponible. Et là, à ce moment-là, je suis là pour traduire.
D'accord. Alors moi, j'ai envie de rebondir sur... je trouve que ça va dans la continuité de ce dont tu es en train d'expliquer. C'est quelles personnes, en fait, peuvent venir à l'ashram ? Parce que tu parles de yoga, donc c'est quand même à 5h du matin. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent se dire « Oulala, moi, je ne suis pas encore dans tout ça, mais je me sens appelée, attirée. » Il y a des gens qui sont plus spirituels que d'autres. Voilà. Donc voilà, moi, pour ma part, tout ça me parle et m'attire. Mais je pense surtout aux personnes qui sont en recherche d'eux-mêmes, en fait, de savoir... Est-ce que, voilà, j'entends parler de massage, j'entends parler de yoga, voilà. L'Inde m'attire, mais j'entends aussi des choses
qui font peur.
Donc, j'aimerais, voilà, essayer de pouvoir rassurer les gens et en même temps, ce qu'ils puissent trouver des réponses dans cette émission, de dire, voilà, moi, ça me parle, je recherche quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Oui. Voilà, et pas de croire qu'on est dans quelque chose de très profond, de très spirituel, que ça peut aussi rester léger, juste se prendre peut-être 10 jours, 15 jours pour découvrir le yoga. Et comment découvrir le yoga au cœur de l'Inde, je pense qu'il n'y a pas mieux.
Il n'y a pas mieux, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, Julia. Alors, en fait, dans le groupe qui est venu, par exemple, il y avait des gens... assez jeune, 25 ans jusqu'à 70 ans. Après, c'est vrai que je veux préciser que le lieu est très simple. Quand on arrive, c'est vrai qu'on peut être un peu effrayé parce que ça fait un peu bidonville, quoi. Hein, y a un peu des tôles partout, etc. Il y a des petits bungalows en bois quand même, mais le swami, il n'a pas axé sur l'esthétisme du lieu. Et donc il faut que ça soit des gens où c'est pas, ils cherchent pas un lieu confortable, un lieu trop confortable, parce que là ils vont pas être bien. Voilà, il faut vraiment être capable de s'adapter à une vie sans trop de matériel, quoi, en fait, hein. Sans trop de matériel, c'est une pause avec soi-même, c'est une pause où on va être massé, où on va avoir aussi un diagnostic par ce médecin. Hein, qui est dans l'Ayurvédia depuis 40 ans, qui voit tout de suite qui vous êtes dès que vous arrivez, et qui va vous dire des choses sur vous qui peuvent être agréables, qui peuvent aussi ne pas être agréables. Et puis après, vous avez des soins pour essayer d'harmoniser qui vous êtes. Donc, il faut être prêt à avoir envie, de faire un travail sur toi quelque part, quoi, en fait. Hein. Et puis aussi, c'est un moyen aussi quand même de se reposer, de faire une pause. Mais c'est pas un voyage où vous allez aller dans un lieu, puis dans un autre, et puis où vous allez vous fuir, quoi. Hein. Voilà. C'est un voyage où vous allez vous rencontrer. Parce que par moments, il y aura... Je vais vous proposer des activités, c'est vrai, mais il y a des moments où ça sera... Il n'y aura rien. Et moi, quand je suis restée dans l'ashram pendant les 5 ans, il y a des moments où j'aidais, mais par moments, il y a des grandes périodes où j'étais toute seule dans ma chambre à rien faire, quoi. Et là, j'étais vraiment confrontée à moi et ça m'a aidée à vivre ce que je vis aujourd'hui et à faire vraiment réaliser le rêve que j'ai depuis très longtemps et être vraiment à ma place. Et je crois que pendant ce séjour, il y aura des moments où vous aurez la possibilité de rester à l'ashram, même si on vous propose d'aller dans la jungle, d'aller voir les éléphants, d'aller dans un temple, etc., où vous serez face à vous-même. Alors, vous pouvez aller dans le village, aller faire vos petites emplettes. Mais alors, d'ailleurs, il y avait des gens qui, au départ du séjour, ils arrivaient tout de suite, partaient au village, allaient acheter ci, allaient acheter ça. Et puis après, ils avaient envie de se poser. À la fin du séjour, j'étais étonnée de voir les gens qui avaient envie de se poser, de rester face à la mer, de rester avec les chiens, de rester avec les chats, de rester dans la simplicité. Voilà, et c'est un terme très fort, c'est simple. Alors, c'est vrai que en revenant de ce séjour, je me suis dit, bon, je propose ça, hein, en étant l'intermédiaire, parce que d'arriver dans un ashram comme ça, c'est quand même pas si évident de se retrouver qu'avec des Indiens, parce que c'est pas l'ashram d'Ama ou un grand ashram où il y a des Occidentaux. Là, moi, quand je suis arrivée, j'étais la seule Occidentale, quoi. Alors, ils étaient adorables avec moi, mais ça n'empêche que, bon, ils parlaient entre eux et tout ça. Donc là, j'essaye de vous emmener. Voilà, il faut trouver sa place et tout. Donc là, j'essaye de vous amener et de vous aider à ne pas vivre ce que, quand même par moments, les inconforts que j'ai pu vivre au départ. Mais là, j'ai vu que certaines personnes adorent, ils sont restés 3 semaines en plus, ont envie de revenir, et d'autres, en fait, ont dit « Catherine, j'ai trouvé que c'était quand même un peu roots, quoi, c'était un peu trop simple, quoi, en fait, hein. Et moi, je m'attendais à autre chose, quoi. » Alors, je me suis dit, pour contenter les gens, eh bien, je vais proposer ce lieu-là. Et je vais proposer aussi un lieu, un centre ayurvédique ou avec une clinique, avec des médecins qui ont fait des études plus à l'université. Swami, c'est vraiment très authentique. C'est le médecin ayurvédique de l'ashram, c'est vraiment de maître à disciple, quoi. Ça fait 40 ans qu'il est dans l'ayurveda, de maître à disciple. Tandis que là, ce que je vais, et vous allez voir hein, sur mon site, tout ça, je suis en train de proposer tout ça, eh bien, je vous propose aussi des séjours où ça sera dans une clinique, où là, vous aurez une équipe de masseuses, où vous aurez un planning en arrivant. Tandis qu'à l'ashram, on n'a pas trop de planning. Moi, j'essaye, alors je vais essayer dans la mesure du possible, mais je vous dirais, bon, yoga, méditation, repas, et puis après des massages. Mais après, Swami, il arrive, puis il dit, si vous voulez, vous pouvez aller voir un astrologue védique. Alors, tout le monde dit, quand voilà. Et la veille pour Amma, la veille, on a su la veille pour Amma. Le lendemain, il y avait des gens qui arrivaient à minuit. Est-ce que vous voulez aller voir Amma? Et alors, il y a eu toute une équipe qui est partie voir Amma. Mais ça a été tout de suite comme ça. Tandis que je pense que la clinique où je vais vous proposer, c'est des gens qui ont envie quand même de trouver un peu de rationnel, quoi. Pas seulement d'arriver. Une structure, voilà, quelque chose qui peut rassurer, parce que l'Inde, quand même, c'est quand même un choc. Et l'ashram, c'est génial pour les gens qui sont prêts, qui n'ont pas envie d'être trop dans la structure, qui ont envie de lâcher tout. Mais je vous propose les deux.
C'est pour ça que je trouve l'émission très intéressante ce soir, parce que je me dis que là, on parle vraiment du cœur, le sujet de l'ashram et de l'Inde. Pour faire une parenthèse, moi, je suis partie en Inde, je suis partie à Auroville, à Pondichéry, et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a un choc au niveau de la culture. D'accord, on a beaucoup, beaucoup d'informations dès qu'on arrive, dès qu'on sort de l'aéroport, on est écrasé par une chaleur. Il y a beaucoup de klaxons, parce que c'est comme ça qu'ils communiquent là-bas. C'est assez drôle, d'ailleurs. Pour ma part, ça m'a fait beaucoup sourire. Des vaches qui traversent la route. Donc ça, c'est pas quelque chose que nous, on voit ici, en France. Donc ça peut étonner certaines personnes. Et puis, il y a une histoire, je trouve, qui est, enfin, pour moi, qui est importante de souligner, c'est l'histoire du temps. La notion du temps qu'on a ici en France et la notion du temps qu'on a en Inde n'est pas du tout la même. Donc, c'est ce qui nous amène, pour moi, à une forme d'introspection et de méditation, sans forcément être là-dedans ou d'être dans le spirituel. Mais l'Inde nous pousse à aller dans cette introspection, de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Et ça, pour moi, c'est important de le partager ce soir, de partager mon expérience qui a été quand même un grand tournant dans ma vie et quelque chose qui m'a touchée profondément, même bouleversée. Et voilà, on dit toujours, l'Inde nous appelle. L'Inde nous appelle à un moment donné et voilà, et les gens qui nous écoutent ce soir, si vraiment vous sentez un appel profond, mais que vous doutez, allez-y, mais en ayant toute confiance et en lâchant prise, parce que plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez lâcher prise dans ce pays, et plus vous allez recevoir des choses. Et voilà, et pour moi, c'est ça, c'est aller dans un ashram. Alors peut-être que, voilà, c'est que mon avis, mais c'est vraiment aller chercher une authenticité et quelque part une spiritualité. On ne va pas dans un ashram comme on irait dans un hôtel ou dans un guest. Voilà, faut s'attendre à ce que ce soit rudimentaire et que voilà, on soit au cœur du sujet avec un swami qui est là pour, avec toute sa spiritualité, ce qui dégage, sa puissance, sa force. Et voilà, je pense que les gens, il faut être vraiment OK avant de partir et bien bien réfléchir à dire qu'est-ce que j'attends pas de ce pays, parce qu'on n'a rien à attendre de ce pays, c'est ce pays qui nous renvoie des choses. Je pense qu'on doit venir en toute simplicité et humilité, mais vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce que moi j'attends quand même de ce voyage? De quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je vais chercher dans un ashram? C'est pour ça que pour moi c'était important de vraiment de détailler qu'est-ce que c'est un ashram, qu'est-ce que c'est un swami, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment est le lieu, parce que ça c'est important, c'est authentique.
Ouais.
Donc il faut le savoir, faut pas, voilà, je...
Voilà. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Julie. C'est vrai, et puis quelquefois, on se fait des fausses idées sur l'Inde, quoi. On est là, l'Inde, ah oui, c'est un idéal, etc. Mais l'Inde, quelquefois, c'est dur au départ, quoi. Et on n'a pas du tout le confort, on n'a pas les mêmes repères qu'en France. La notion du temps n'est pas la même, il faut de la patience. Quand on était à l'ashram, au départ, pendant ces jours en février, eh bien, chacun est allé voir Swami. Mais c'est vrai que donc Swami n'a pas pu les voir tout de suite, et puis Swami, il prend son temps. C'est-à-dire, il est avec l'un, alors il prend le temps, etc. Et puis, il y a un Indien qui arrive, et puis... Hop, l'Indien il passe, et puis après, alors quelquefois les gens ils ont attendu comme ça, et puis mais en même temps on attend, mais dans cette attente on lâche prise aussi quelque part. Exactement. Parce que si on veut du rendement tout le temps, eh bien non, à l'ashram, moi ce que j'ai, et c'est vrai que moi aussi, hein, par moment je voulais plus, moi je savais après que j'allais ouvrir un centre, donc je voulais apprendre, je voulais savoir plein de choses, etc. Et puis par moment, comme je vous ai dit, j'étais enfermée dans ma chambre et il se passait rien. Swami, il était trop pris, il pouvait rien m'enseigner. Et puis l'enseignement, en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'enseignement, je l'ai eu vraiment, ça a été un enseignement intérieur, quoi. Ça a été un bouleversement intérieur. Et c'est ce que l'Inde nous apporte. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à nous-mêmes. C'est comme un miroir qui nous est mis en face de nous. Exactement. Et alors, si on a des fragilités, les fragilités, elles montent, quoi. Et c'est pour ça que les gens qui sont peut-être trop fragiles... Moi, je ne vous conseille pas de partir seule en Inde. Hein. Moi, je suis partie seule. Bon, voilà, Julie aussi. Mais c'est pas rien, quoi. Hein. Oui. C'est pas rien de partir seule. Et c'est pour ça que moi, je vous invite... à venir avec moi pour, en fait, être déjà dans un groupe. Vous êtes avec des Occidentaux, vous pouvez parler, tout ça. Le groupe-là était très sympa. Tout le monde a bien aimé. Il y avait de la gentillesse, de l'entraide. Et puis, on partage nos impressions. Dire, oh là là, le Swami, il dit ça, c'est un peu dur quand même. Hein, voilà. Et là, il nous fait attendre. Là, le masseuse, on devait avoir ce masseur-là. Et puis là, on a une c'est les masseuses hein, qui massent les femmes, à l'ashram en tout cas. Pourquoi on a cette autre masseuse et tout. Donc voilà, ce manque de rationalité, ce manque de fantaisie, quelquefois peut surprendre. Et c'est pas mal dans un premier temps, si vous êtes en France très rationnel, si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, eh bien dans un premier temps, allez avec un groupe. Et puis peut-être pas, allez pas tout de suite à l'ashram, allez dans un premier temps dans la clinique, quoi, pour vous rassurer. Et voilà, parce que comme le temps n'est pas le même, quoi. Et si vous êtes impatient, si vous voulez avoir du rendement, n'allez pas en Inde, quoi.
On peut pas demander, je pense, à ce pays d'agir comme nous on agirait en France. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, voilà, j'y suis allée, donc je peux en parler. Ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, dès que je suis arrivée, j'ai eu vraiment cette impression de je suis dans un autre monde. Même si je n'étais pas choquée de la culture, parce que je rêvais de ça depuis tellement longtemps, j'étais en demande en fait de voir ce côté authentique du pays, comme dans beaucoup de pays d'Asie aussi. Mais voilà, une fois arrivée, ça m'a demandé de lâcher. Ça m'a demandé de lâcher dans tout ce que je ressentais, voilà, parce que je parlais des klaxons tout à l'heure, mais il y a les odeurs aussi de toute cette cuisine qui a partout, ces épices, voilà, les gens qui vous regardent, voilà, parce que je suis blonde aux yeux bleus, donc forcément quand on arrive, ils nous regardent d'une façon, on dit ouh, mais voilà, ils veulent savoir d'où on vient, donc il faut... Je pense qu'il faut vraiment savoir comment on voyage, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va y chercher. Mais vraiment, la règle, c'est accueillir ce qui se passe. Et comme dit Catherine, je suis d'accord avec toi dans le sens où il ne faut pas partir seule. Moi, je l'ai fait. Voilà, j'ai été assez...
Un peu folle, un peu intrépide, courageuse.
Ouais, je ne sais pas si c'est du courage ou de l'insouciance avec le recul, mais ce que je peux dire, c'est que ça m'a transformée, ça m'a bouleversée, ça a été très dur. Aujourd'hui, je peux le dire, ça a été compliqué pour moi là-bas. D'ailleurs, j'ai écourté mon voyage parce que, voilà, à un moment donné, j'ai préféré être moins violente avec moi-même. Parce que voilà, ce pays, c'est... j'ai pas envie d'en parler pour que les gens aient peur, mais comme tu as dit, tu l'as très bien souligné, quand on a une fragilité, une sensibilité, donc moi je suis une femme je suis hypersensible, je ressens les choses, elles me traversent dans tout le corps. Voilà, je peux regarder une photo de l'Inde et me mettre à pleurer parce que ce pays, malgré tout ce que j'ai vécu là-bas, m'habite au quotidien, m'appelle. Mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, il y a une bienveillance. Je suis rentrée plutôt par bienveillance envers moi-même. Je prends le temps d'y retourner parce que quand vous allez là-bas, il faut se dire que vous avez une chance sur deux pour rentrer vraiment transformée. Sans parler de quête spirituelle comme moi, j'étais en quête. Voilà, je suis allée chercher des choses là-bas. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe, qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, voilà, on dit l'Inde, ou tu l'aimes ou tu la détestes. Et il n'y a pas plus à dire pour moi dans ce pays. C'est où vous allez rentrer, dire plus jamais j'ai détesté. Ou alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là comme moi au bout d'une semaine, je pleure pour repartir. Qu'est-ce que je fais en France alors que j'ai tout à y faire aussi. Autant que j'aurai encore à découvrir des choses. Parce que je pense que c'est un pays qui nous apprend non seulement sur nous, mais après, voilà, si on plonge... Comme nous trois, dans l'Ayurveda, le massage, voilà, qu'on est attiré par les ashrams, qu'on ait cette quête spirituelle, on peut y trouver des choses merveilleuses, mais ça demande une vraie connexion à soi, un lâcher-prise, une acceptation.
Voilà.
Il faut accepter.
Ça, je suis bien d'accord avec toi, c'est-à-dire si on y va avec des idées toutes préconçues et on attend ci, on attend ça, alors là, on est malheureux. Mais si on y va... Et c'est vrai que moi, au départ, j'ai été malheureuse parce que j'attendais trop. Voilà, j'avais fait beaucoup d'études. Donc, moi, j'attendais qu'on me donne des études pareilles pour l'Ayurveda. Et le Swami, il m'a appris beaucoup plus sur le terrain que par des connaissances précises. Après, j'ai été voir dans des livres. Mais même comment apprendre même un massage. Moi, la personne faisait le massage devant moi. Et puis, ça y est, c'était bon. Il fallait que je le refasse, quoi. Donc, quand on va en Inde avec des idées trop précises, eh bien... on est déçu et il faut vraiment se lâcher prise. Et quand on commence à lâcher prise, là, on rencontre des gens, on fait des rencontres. Voilà, il y a des expériences qui sont inoubliables, qui sont étonnantes, qui sont... Moi, par exemple, Swami, il parlait devant des gens, puis devant des foules, il me faisait parler devant des foules. Alors, je lui disais, mais je dis quoi, moi ? Du yoga, de l'Ayurveda, et voilà, et ça s'est fait. Voilà. Et puis, quelquefois, on arrive à un coin de rue, puis il y a une famille qui nous invite à boire un thé, puis ils ont plein de... Ils sont tout gentils, et souriants, ils sont la joie de vivre, et donc et voilà.
On
et
c'est accueilli, pardon.
Oui, c'est vrai, on se sent
accueilli
et puis reconnu. Alors, c'est vrai que ça, c'est touchant. Et puis, ce que j'ai surtout aussi appris, c'est que nous, en France, on se plaint. Il y a deux coups d'eau. Oh là là, il fait pas beau, etc. Quand je suis revenue d'Inde, moi, j'avais passé donc 5 ans. J'étais revenue pour le visa, mais c'est, sur 5 années, je passais la majeure du temps en Inde. Quand je suis revenue, eh bien, je trouvais que la France, mais c'était extraordinaire, quoi. Il pleut. Mais il faisait frais. Moi, je sortais d'un pays où il faisait 40 ou 45 degrés. 45, ouais. Voilà, donc la fraîcheur, je trouvais que c'était magnifique. J'avais vécu des moussons. Donc l'eau, je trouvais que c'était super, quoi. Là, il y avait quelqu'un qui se plaignait. Moi, je disais, mais c'est magnifique. Après, j'ai vécu dans un appartement. Je trouvais que l'appartement, il n'y avait pas d'eau qui arrivait par le toit. Je trouvais que c'était chouette, quoi. C'était... Et vraiment, quand je suis rentrée en France, eh bien, je ne me plaignais plus. Je ne me sentais pas autorisée à me plaindre. Mmh. Parce que j'avais vu aussi, dans le nord de l'Inde, j'ai vu beaucoup de souffrance, j'ai vu beaucoup de pauvreté, où les gens, ils n'avaient rien et ils vivaient, ils étaient heureux. Et moi, même quand on n'a rien en Occident, quand je suis arrivée, je n'avais plus rien. Et j'ai eu je crois que c'est le RSA, c'est ça ?
Oui, le RSA.
Ah, moi, j'ai trouvé que c'était génial. On m'aidait en arrivant en France. Donc, j'ai trouvé que c'était super. En Inde, on a un problème même physique, tout ça. Il faut payer l'hôpital. Il n'y a pas de RSA. Il n'y a rien, quoi, ouais. De tout ça, quoi. Donc, c'est vrai que, bon, en France, il y a des choses qui ne vont pas. Je suis bien d'accord. Mais ça n'empêche que par comparaison, ouais. Et je trouvais que la vie en France était beaucoup, beaucoup plus facile. Mais alors, on va me dire, mais pourquoi vous y retournez alors ? Pourquoi j'y retourne ? Parce que l'Inde, ça renvoie à l'essentiel. En France, on a du mal à aller à l'essentiel parce qu'on est trop dans le matériel, quoi. En Inde, eh bien, le matériel... alors, ils y viennent maintenant, mais le matériel n'est pas aussi important et le spirituel a sa place. Donc, quand on a... on est renvoyé à soi, quoi. À notre être le plus profond, parce que on est moins dans l'apparence, dans le superficiel, dans...
Ouais, c'est complètement deux contrastes. C'est vraiment deux contrastes. On peut pas comparer la France et l'Inde. C'est pas possible. L'Inde, ils font tout pour se débrouiller, pour manger, pour avoir un toit, pour avoir... Nous, tout est acquis ici. Je partage tout à fait ce que tu dis, parce que dès que je suis arrivée à Paris... Donc, dès que mon avion a atterri, la première chose que je me suis dite, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais en fait, je me suis sentie comme... comment trouver le... j'ai pas le mot.
Comment...
Je sais
pas.
Oui. C'est un petit peu... T'as tout servi sur un plat. Assisté, merci, pardon. Ça doit être la fatigue, 9 heures de route. J'arrive. Donc, voilà. Mais oui, je me suis sentie assistée. J'ai eu honte. Mm-hmm. J'ai eu un sentiment de honte en arrivant. Et de me dire, il va falloir que ça change. Mm-hmm. Il faut que ça change. Mm-hmm. Mais pour j'avais ce sentiment de vouloir le partager avec tout le monde. D'accord. Cette vibration en moi où je me disais, mais oui, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut qu'on arrête de se plaindre. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien, mais ils nous ouvrent leurs portes. Ils donnent, voilà.
Avec ils ont l'hospitalité,
ils sont
réputés, etc.
Ouais, pour leur hospitalité, oui, ils sont connus pour ça.
Ah, mais oui,
voilà.
Voilà. Ils ont
générosité sans faille.
Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est... que dire qu'à chaque fois, ça va nous ramener de toute façon à nous remettre en question sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut pour en rentrant chez nous, qu'est-ce qu'on veut changer dans notre façon de vivre, prendre du recul, de la hauteur sur les choses, du détachement. Enfin, je pense que ça, ce pays amène à ça. Et je pense que les gens, s'ils nous écoutent et qui sont partis en Inde, je pense qu'ils partageront notre opinion.
C'est vrai. Et ce qui m'a aussi touchée en Inde, c'est la solidarité. C'est-à-dire, comme ils vivent par moments, comme nous, on a vu là avec les attentats, la solidarité qui commence à naître. Mmh. Parce que nous, autrement, ça va toujours trop bien chez nous. Donc la solidarité, c'est, on connaît pas, on est chacun pour soi. Mais quand, par exemple, on a la mousson ou qui détruit des petits bungalows qu'on venait juste de construire, il y a de l'eau partout, voilà. Eux, ils enlèvent l'eau, ils écopent et tout. Et ils font ça et ils s'aident, ils s'entraident, quoi. Pour la survie, quelque part. Et ça, nous, c'est vrai, on est loin. Et donc, quand je suis revenue en France, je partage avec toi, Julie, c'est cette entraide. Alors, moi, je fais un petit centre de yoga, d'Ayurveda, et j'ai envie que dans ce centre, eh bien, les gens se connaissent. Et au début, j'ai fait des soirées, tout ça, pour que les gens, s'il y a, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un menuisier qui puisse aider l'autre qui a besoin dans sa maison, que chaque corps de métier, eh bien, on aille pas seulement l'argent tout le jour l'argent, mais qu'on se fasse par moments des échanges et du soutien.
C'est en fait pour privilégier les valeurs humaines.
Voilà, c'est pour privilégier les valeurs humaines, l'essentiel. Voilà, et ça, quand on va en Inde, c'est vrai que on est touché par ça. Alors c'est vrai que si on est dans sa bulle, on a envie d'aller que dans les grands hôtels pour voir que les monuments. Moi, le voyage en Inde, ça m'intéresse pas comme ça, quoi. Moi, ça m'intéresse d'aller dans les lieux sacrés, d'accord. Mais les lieux sacrés, quelquefois, on les trouve dans les villages, on n'a pas besoin des grands lieux réputés. Oui. Partout, pour moi, c'est des lieux sacrés, quoi. Tout est sacré, c'est voilà,
tout
c'est
est
vrai.
Sacré. Oui, tout est sacré. Je confirme que pour moi, tout était sacré. Mm-hmm. Voilà, c'est chaque moment, chaque personne croisée, chaque regard d'un enfant, les enfants qui sont venus m'accoster. Mm-hmm. Alors, ce que j'aimerais aussi préciser pour moi qui est important, alors j'ai pas ton parcours, hein, je vais rester humble. Voilà, je suis pas restée assez longtemps, mais je voilà, ce que je peux partager, je le partage. Et j'ai été accostée par des hommes. Voilà, j'ai partagé des moments de discussion. Alors même si je ne suis pas très forte en anglais, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu et je n'ai eu aucun souci. Mais vraiment, ils m'ont accueillie. Alors bien sûr, ils aiment beaucoup les Françaises, ils aiment la France. Voilà, ils m'ont même invité à boire un chai. Enfin, voilà, mais jamais, à aucun moment, j'ai eu peur. Je me suis sentie en insécurité. C'est vraiment des personnes qui voulaient me connaître, qui étaient curieux, qui étaient ouverts. Voilà, dans l'ouverture, exactement, Katia, c'était... J'ai pas eu peur. Alors bien sûr, ils me proposaient de m'amener, est-ce que tu... Mais voilà, et après, à un moment donné, faut prendre ce qu'il y a à prendre dans l'échange et laisser ce qu'on
voilà,
ne sent
ce qu'on
pas,
veut pas
ou
faire.
Ce qu'on veut pas faire.
Voilà, faut me poser ses limites, quoi, et très clairement. Et puis pas trop, comment dire, moi, ce que j'ai ressenti avec les gens. Par exemple, quelquefois, il y a des jeunes filles que je faisais venir chez... Voilà, l'ashram et tout. Quand elles étaient un peu provocantes, elles avaient souvent des ennuis, quoi. Au niveau de l'habillement. Alors, c'est embêtant, c'est vrai, ça, on devrait dépasser ça. Mais pour l'instant,
il faut respecter
un petit peu. Alors, c'est vrai, au niveau de son habillement, faire un petit peu attention. Alors, c'est vrai que moi, je me suis sentie en sécurité, par exemple, à l'ashram, dans les villages, tout ça. Dans les grosses villes, comme New Delhi, comme même dans le nord de l'Inde, tout ça. Là, j'aimais pas me balader toute seule, quoi. J'aimais pas me balader toute seule. Et quelquefois, j'étais contente d'être avec Swami et que Swami me protège, quoi. Parce que dans les grosses villes, quelquefois, il y a un peu de tout, comme dans les grosses villes en France, quoi. C'est pareil. Donc, faut savoir où on met les pieds. Faut pas non plus.
Voilà, il y a du danger dans tous les pays, de toute façon.
Voilà, c'est ça.
Mais après, il y a un respect à avoir quand on va en Inde. Les femmes, se couvrent. Je trouve que c'est, pour ma part, alors je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. J'ai eu d'ailleurs 9 heures de discussion et on en parlait avec la personne qui conduisait. Et du coup, j'ai dit, pour moi, c'est à respecter. Quand on va dans un pays, on se couvre un minimum, sachant qu'en Inde, c'est comme ça. Moi, j'ai vu des filles complètement découvertes comme si elles étaient en France. Et j'ai trouvé... Moi, personnellement, ça m'a dérangée. Pourtant, je ne suis pas indienne. Mais ça m'a profondément dérangée parce que pour ces hommes-là, c'est un choc, c'est un non-respect. Ils ne se sentent pas respectés dans leur culture. Et je trouve que quand on arrive là-bas... Moi, je n'étais pas couverte de la tête aux pieds, mais j'ai été accompagnée en plus d'un Indien, donc j'ai respecté le fait que je me couvrais quand même un minimum. Je n'étais pas dans la provocation, je ne regardais pas les hommes dans les yeux non plus quand eux me regardaient, parce que je sais très bien ce que ça veut dire chez eux, et que moi, je veux être là-bas et faire sentir que... Je respecte leur culture.
C'est vrai. Et c'est vrai même à l'ashram, qui est quand même un lieu spirituel, protégé, etc. Oui. Quand il y a eu peut-être une ou deux jeunes filles qui sont venues et qui étaient un peu trop dans la provoque, elles n'ont pas eu des ennuis avec les gens de l'ashram, mais avec des promeneurs, et elles ont eu des ennuis, quoi. C'est-à-dire que, pas des agressions, mais quand même, elles ont été embêtées. Oui. Donc, à respecter. Alors maintenant, on arrive presque au milieu de l'émission, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Est-ce que, plus que le milieu, alors est-ce que vous avez d'autres questions par rapport même au séjour, par rapport...
J'ai une question, ça concerne l'alimentation, la nourriture, les repas. Donc est-ce que tu peux donner quelques idées pour les personnes qui nous écoutent?
Oui.
Notamment par rapport à l'Ayurveda.
D'accord. Alors, c'est vrai que dans le... Alors, je ne vais pas parler de toute l'Inde, parce que Mais par exemple, dans l'ashram, ce que je peux vous dire, et c'est ce que je connais, c'est... Donc déjà, on est végétarien. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'Ayurveda, on est tout le temps végétarien. Il y a des médicaments, on utilise par exemple des produits animaux. Mais donc pour le swami, il y a le respect de l'être vivant. Et donc, tous les repas sont végétariens. Après, complètement végétariens, même, je dirais, végétaliens, quoi. Après, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de produits animaux, de ce qui se dérive de l'animal, quoi. Après, on ne mange que deux repas. Parce que déjà, dans l'Ayurveda, on pense qu'on mange trop. En Europe, trois repas. Parce que l'important, c'est de bien digérer. Donc c'est bien digéré, donc on avait un repas à 11h30 et un repas vers 5h30 et un repas où on mangeait un plat, légumes et légumineuses. Dans les légumineuses, d'après l'Ayurveda, médecin ayurvédique, on a tous les protéines animales qui correspondent aux besoins du corps humain. Et puis alors, c'est vrai qu'en fonction des doshas, on va privilégier, alors je vous ai expliqué dans des précédentes émissions, Pitta, Vata et Kapha, Vata, Pitta et Kapha, c'est vrai que pour Vata, qui est plutôt de nature fraîche, froide, qui a plutôt froid, on va préférer une nourriture chaude. Une nourriture chaude, et puis Vata, quelquefois, a des problèmes de digestion. Donc, quand on mange froid, c'est même la nourriture crue qui est très bonne, mais c'est plus difficile à digérer. Donc, pour les Vata, c'est mieux d'avoir des aliments chauds. Donc, toujours à distance, les repas à distance, jamais de grignotage. Pourquoi ? Parce que quand vous digérez, vous faites marcher tout votre organisme et c'est très fatigant. Donc, c'est vrai, quand on grignote, quelquefois, on se sent toujours fatigué. Donc, de prendre le temps entre chaque repas, manger chaud pour Vata, pour Pitta. Alors, pour Pitta, c'est au contraire. Pitta, il a toujours chaud, lui. Donc, prendre aussi des aliments. Alors, pas manger froid tout le temps, parce que pour la digestion, mais prendre, par exemple, des boissons fraîches, prendre des choses qui rafraîchissent. L'idée, c'est de rafraîchir. Après, je vais passer une émission sur la nourriture la semaine prochaine, où je vous expliquerai aussi ce qu'il faut éviter pour Vata, pour Pitta, pour Kapha, en fonction des éléments qu'il y a dans Pitta et des éléments qu'il y a dans certains aliments. Ouais. Et puis après, Kapha, c'est froid aussi, donc, mais Kapha a tendance à grossir. Donc il faut éviter toute la nourriture qui fait grossir, c'est-à-dire tous les laitages et aussi le sucre. Le sucre et les laitages, pour Kapha, c'est vraiment un poison. Parce qu'une femme qui a 25 ans, Kapha, c'est une femme magnifique. Mais plus elle avance dans l'âge, plus elle a tendance à grossir. Et quand elle arrive à 50 ans, quelquefois, difficile de réguler le poids, quoi, en fait. Donc, voilà. Et autrement, à l'ashram, donc, on évite les produits laitiers aussi. Hein, parce qu'on dit que le lait, c'est fait pour que le petit veau grossisse, quoi. Et donc, nous, on n'a plus besoin de ça. Donc, on évite les produits laitiers. On prend un peu de chai, c'est tout. Hein, donc, il y a un peu de lait dans le chai, c'est le thé indien où il y a du thé, un peu des épices et un peu de lait. Voilà, pas trop de sucre non plus. En Inde, on mange beaucoup moins de sucre qu'en France. Et alors, les travailleurs, c'est vrai, les travailleurs de l'ashram qui font les médicaments et tout ça, eux, ils mangent quand même en plus grosse quantité, ils mangent beaucoup de riz, tout ça. Tandis que nous, on mange trop, donc on essaye de réguler hein, les quantités. Donc voilà, et je reprendrai vraiment ce sujet qui est un point capital dans l'Ayurveda, parce que en fait, on soigne par la nourriture. L'Ayurveda est une médecine préventive, et l'Ayurveda, le premier élément de l'Ayurveda, c'est la nourriture. Et souvent, c'est la nourriture. Et plus que la nourriture, une hygiène de vie, c'est-à-dire faire un peu de sport, avoir une bonne sexualité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui se respecte, qui respecte la personne.
Le sacré, en fait.
Voilà, le sacré, oui. Okay. Et puis aussi, avoir aussi donc un peu d'exercice et avoir un bon sommeil. Respecter au niveau du sommeil. Alors, pour la nourriture, en général, on mange le matin et on ne mange pas trop tard le soir pour que la digestion soit passée, que soit faite.
J'avais une question, je ne sais plus si on l'a posée, mais je vais quand même la poser. Au niveau du yoga, parce que yoga, 5 heures du matin, à jeun, voilà. Est-ce que les personnes qui sont complètement novices, qui n'ont jamais fait en fait de yoga, peuvent accéder à ces cours?
Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Tu as posé plus ou moins la question et je n'y ai pas répondu. Alors, c'est vrai que là, pendant ce séjour, il y avait des personnes qui n'avaient jamais, jamais fait de yoga. Alors, déjà, Swami, c'est un médecin. Donc, c'est lui qui a donné la plupart des cours. J'ai dû en donner un le matin, puis j'en ai donné l'après-midi. Donc, Swami est un médecin. Donc, il fait attention au corps humain. Au corps humain, il veut surtout pas faire les postures alambiquées, compliquées. Il est tout à fait capable de les faire, mais c'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est que la personne soit vraiment centrée, se retrouve elle-même, quoi. Et personnellement, moi, j'ai travaillé avec des médecins, avec des kinés. Donc, j'ai travaillé longtemps avec le docteur Lionel Coudron, et donc où on faisait du yoga thérapie. Eh bien, là aussi, le yoga, pour nous... Et puis après, j'ai fait beaucoup de stages avec Blandine Calais-Germain, donc qui est une kiné. Donc, et là, elle m'expliquait tellement de choses que quelquefois, quand je rentrais, je n'osais même plus faire les salutations au soleil ou faire... Alors, voilà, j'ai quand même une conscience du corps. J'ai fait beaucoup de méditation. Donc, ce qui est important pour moi, je pense comme pour Swami, c'est que la personne se ressente, la personne se retouche à son être profond dans le lieu. Soit en conscience, voilà. Et ce qui fait la différence entre la gym et le yoga, déjà, c'est la respiration. Reprendre conscience de sa respiration, et en général on n'a pas conscience de la respiration. Et
c'est
puis
la base, c'est la base du yoga, la respiration, enfin je crois.
Oui, tu as
raison,
je suis
pas une experte en yoga,
mais c'est vrai, le yoga, c'est semble, ouais. Voilà, comme je dis, ce qui différencie la gym du yoga, c'est la respiration. Et demain on va faire une séance de yoga, et vous allez voir, je commence toujours par reprendre conscience de la respiration, faire des exercices. Et c'est pour ça qu'à l'ashram on fait une heure de respiration.
Et c'est ça qui est intéressant, parce que dans le yoga, ça ramène à la respiration. Et pour moi, la respiration, ça ramène vraiment à une introspection. C'est vraiment c'est ce que je reçois là, de me dire, voilà, c'est rentrer à l'intérieur de soi et voir un petit peu ce qui s'y passe. En enlevant, en quittant ce mental qui, pour nous, ici en France, et prend trop de place. Et c'est vraiment de revenir à une écoute intérieure sans y mettre des mots. Et je trouve que c'est intéressant, parce que moi, je vois depuis ce voyage, j'ai beaucoup de mal avec les mots, de mettre les bons mots sur un bon ressenti, parce que c'est tellement déjà fort ce que je peux ressentir, je trouve jamais le bon mot, que ne rien dire, mais le vivre, pour moi, c'est complètement deux choses différentes, et pour avoir quand même testé un petit peu le yoga, ça ramène à ça. On se sent vraiment aligné, recentré, il n'y a plus besoin de se poser toutes ces questions qui n'ont de réponse, enfin, vraiment c'est sans fin à des moments,
exactement.
On tourne en rond.
C'est très juste ce que tu dis, Julie.
Donc c'est vraiment de voilà, je pense
voilà.
Que et
c'est
puis
vrai.
C'est l'idéal.
Voilà.
Là c'est en Inde, donc on est au cœur du cœur, dans
voilà.
Un ashram face à la...
À la... Même la mer est
à
là,
mer,
il
voilà,
y a les
ouais.
animaux, Swami est quelqu'un de très bon, connecté, c'est quelqu'un qui est, pas, qui est rationnel un petit peu, mais qui est aussi très fantaisiste, qui marche à l'intuition. Donc là on est amené à retoucher notre intuition, à accepter aussi cette fantaisie qui est en nous, et pas à vouloir tout régler, tout régenter, tout maîtriser. Et le yoga, c'est vrai, c'est revenir en nous, quoi. Donc, par la respiration, mais aussi mettre de la conscience. Et quelquefois, moi, dans mes cours de yoga, je fais des postures très simples. Et Swami nous a dit, en commençant les cours, il a dit, on va faire toujours le même rituel. Parce qu'il a dit, après, ça va devenir une seconde peau pour vous. Ça va être vraiment, ça va être quelque chose que vous allez avoir, vous allez connaître complètement, qui va être en vous, quoi. Et c'est vrai qu'en Occident, quelquefois, il y a des élèves qui veulent changer, qui veulent faire des postures. Alors, il y a des millions de postures, on peut faire des variantes, c'est vrai. Mais qui veulent changer tout le temps. Et non, c'est pas bon. Moi, souvent, je prends toujours le même processus, même si après, je fais quelques variantes, mais le même processus, les gens s'y repèrent et après, ils se sentent bien et ils peuvent se poser dans la posture, ils peuvent rester et rester avec eux, parce que le yoga, c'est pourquoi ? Yoga, c'est yug. Yug, c'est l'union. C'est l'union avec le spirituel, mais c'est l'union aussi avec soi-même. Et le spirituel, c'est en nous, donc c'est l'union avec soi-même, quoi. Donc, l'union avec soi-même, pourquoi aller faire les pieds en l'air, etc., bouger un peu le pied, tout ça. Non, c'est vraiment faire des postures et rester dans la posture traditionnelle et sentir ce qui se passe et être présent à soi-même.
Donc, est-ce qu'il y a besoin d'être souple ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes derrière l'écran qui doivent se dire « Mais mon Dieu, j'ai jamais fait de yoga ou de danse ou de gym. Je suis raide comme un piqué. » Est-ce que... Parce que je suis persuadée qu'il y a des gens derrière qui sont en train de se dire « Mais j'aimerais, parce que j'entends beaucoup parler de yoga. » Parce que voilà, il y a quand même une effervescence derrière tout ça. Le yoga, le massage, voilà, tous ces soins-là. Mais est-ce qu'on a réellement besoin d'être souple pour accéder à ces cours?
Alors moi je dirais que c'est comme par exemple quand on va apprendre l'anglais. Est-ce qu'on a besoin de savoir l'anglais quand on va l'apprendre? Eh bien pour moi le yoga c'est pareil. Le yoga ça va amener à vous assouplir, mais vous n'avez pas à être souple. Vous allez faire ce que vous pouvez faire en conscience. Et justement, vous allez être étonné parce que vous allez être souple dans certaines postures. Il y a des gens, par exemple, qui arrivent à toucher les deux bras à l'arrière. Ils sont tout contents. Et puis après, ils n'arriveront pas à faire le lotus. Moi, par exemple, ça fait plus de... Attendez, plus de 35 ans que je fais du yoga facile. Et... En fait, je ne peux pas faire du lotus, je ne peux pas me mettre en lotus. Et il y a eu une période, j'étais avec des profs qui ont poussé, tout ça. Ils me disent, ça fait 20 ans que tu fais du yoga, tu ne fais pas le lotus, tu n'as pas eu des bons profs. Alors, ils m'ont fait mal, ils m'ont fait boiter, tout ça. Et après, j'ai compris que non, ma morphologie n'est pas la même que les Indiens et je ne me mets pas en lotus. Mais je peux faire plein de choses, mais je le fais en conscience. Et souvent, moi, je préfère un élève qui n'arrive pas à faire la chose, mais qui arrive à sa limite et qui dit non, plutôt que l'élève qui veut être dans la compétition, qui y va, et qui à la fin... Et dans l'ego et la compétition, voilà. Ouais. Et qui à la fin a mal partout, quoi. Donc, non. C'est pas ça,
c'est
le yoga.
C'est pas être dans l'ego,
non.
C'est justement revenir à soi.
Voilà.
Dans l'écoute de son corps, voir ses limites.
Voilà.
Se pousser un petit peu pour accéder à des choses qui ouvrent, en fait, au niveau du plexus, au niveau du cœur, qui peut, je pense, voilà, le yoga, ça amène à une guérison au niveau des angoisses, du stress.
Exactement.
Et je voulais t'amener à ça aussi, puisque je vois qu'il nous reste 10 minutes. Qu'est-ce que 35 ans de yoga, qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça a transformé ma vie, quoi. Le yoga, pour moi, c'est comme une douche le matin. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je prends ma douche et j'aime bien faire, par exemple, salutation soleil, mettre sur la tête, tout ça. parce que ça, comme si ça me nettoyait. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça, au départ, moi, j'étais quelqu'un d'assez nerveuse et ça m'a apaisée. Même, bon, j'ai de l'énergie, c'est vrai, mais ça m'apaise, ça me permet de prendre du recul par rapport aux événements. Ça ne veut pas dire que la vie, il ne vous arrive pas des problèmes. Hein. Il y a pas longtemps, j'ai eu le feu dans ma cuisine. Mais alors, tout le monde me dit, oh, ma pauvre Catherine. En plus, je n'avais pas eu mon visa pour partir en Inde. Okay. Alors, les gens qui m'appelaient, ils étaient catastrophés. Mais moi, je prenais ça avec du recul et... Le yoga m'a apporté ça, à prendre un peu de recul et puis de me dire, ok, voilà, j'ai le feu dans ma cuisine, mais bon, je suis encore en vie, donc c'est génial. En plus, mais j'ai des assurances, je suis en France, voilà, donc ils vont refaire mon appartement.
En Inde, ce ne serait pas le cas.
Pas le cas. Donc, en voir les bons côtés des choses. Et moi, le lendemain, on était catastrophés et je disais, moi, mais je suis heureuse, je suis en vie, j'aurais pu brûler dans cet appartement. Donc, de voir aussi, de voir le côté positif des choses. De pas se plaindre. Et puis d'être dans mon corps. De pas être que dans ma tête. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai, bon, j'ai un côté rationnel, mais quand même, avant, j'ai fait beaucoup d'études, hein, j'ai fait la grecque de lettres. Donc, j'étais trop dans ma tête, tandis que maintenant, je lâche prise. Je suis incapable de préparer une émission, par exemple. Je suis incapable.
On n'a rien préparé. Ça, c'est on clair. Va le dire, on a été très spontané.
Non, mais c'est vrai, le yoga m'a permis d'être plus. En moi, quoi, d'être plus connectée, d'être plus de lâcher prise, de sentir mon corps, de voilà.
Et tu décris l'Inde quand même en disant ça.
Alors, c'est vrai que je me sens bien en Inde et je me sens proche des Indiens parce que j'ai un côté où d'ailleurs je dérange certaines personnes parce qu'on me dit oh, t'es pas assez organisée. Alors là, je fais un petit peu des efforts. Maintenant, je me suis organisée avec des classeurs, tout ça. Mais au début, c'est vrai que j'étais pas organisée et que ça arrive, ça vient. Alors, quelquefois, je m'oblige à faire des plannings, mais c'est une obligation parce qu'on me le demande. Parce que moi, je travaille à l'instant, quoi, à l'instant et à l'instinct. C'est-à-dire, si dans mon stage, j'ai prévu une méditation et puis si je vois que les gens ils ont besoin de sortir et ils ont besoin de courir ou d'aller embrasser les arbres, eh bien ma méditation ça sera une autre méditation, ouais. Avec les arbres c'est aussi une méditation où ça sera un cours de yoga où ça sera un partage. Voilà, j'ai vraiment du mal avec les plannings, ça c'est vrai, et ça me vient de l'Inde mais ça me vient aussi du yoga. Donc voilà, du yoga, de l'instant. Alors c'est vrai aussi que j'ai passé beaucoup d'années dans les monastères à faire de la méditation. Et pour moi, le yoga amène à la méditation. Oui. Pour moi, le yoga dans chaque posture est une méditation.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est ce que j'aime parce que c'est la méditation en conscience, mais en mouvement aussi.
Voilà.
Parce qu'il y a des gens comme moi, voilà, qui ont besoin d'un fort ancrage et voilà, j'ai beaucoup d'énergie aussi de la méditation, de rester comme ça en posture et d'être en présence dans la respiration, ça peut être difficile au début, quoique je m'expérimente de plus en plus et je trouve que ça a vraiment des résultats. Voilà, notamment une amie qui m'a partagé, qui avait eu une grave maladie, qui s'est guérie en méditant sur son canapé. Voilà, donc pour dire que vraiment ça amène. Et le yoga... C'est la même chose, mais je pense dans le mouvement.
Voilà, et dans le mouvement, et en même temps, par moments, on reste dans la posture. Tranquillement, on reste dans la posture, donc on amène à la méditation, mais peut-être que pour des gens... Mais de toute façon, le yoga, ça fait partie des étapes, comme pranayama, yoga, etc., pour amener à la concentration, pour amener le yoga. Et c'est vrai que j'aime bien quand les gens viennent me voir pour faire de la méditation, commencer par un peu de pranayama, commencer par de la relaxation, par quelques exercices de yoga. Et la méditation est beaucoup plus facile parce qu'on est beaucoup plus en lien avec soi-même, on est beaucoup plus détendu, centré.
Et ancré.
Et donc la méditation découle et le yoga est une méditation.
Donc on ne peut que passer une bonne journée en Inde en commençant comme ça.
Alors, voilà. Ça
pour
aide.
Moi, c'est évident, ça paraît évident. Vu que l'Inde bouscule dans tous nos sens, démarrer une journée en faisant de la méditation et du yoga, ça centre, ça ancre et ça permet d'être détendu dans un lâcher-prise pour continuer la journée et accueillir ce qui doit être accueilli.
Voilà, exactement. Et de voir ce qui est bon, même si on attendait, je sais pas, une vue sur la mer, on a une vue sur les backwaters, bon, et on accepte, et puis c'est bien, et voilà, et on est heureux de ça.
C'est ça.
Alors voilà, alors là, il reste peu de temps, je voulais dire quelque chose, et puis ça m'a échappé. Alors, oui, le yoga, c'est vrai que c'est aussi un travail sur les énergies. Et le yoga aussi, c'est, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, écoutez, moi, je suis pas bien, vous allez m'aider avec le yoga et la méditation. Alors, je dis, je veux bien vous aider avec le yoga et la méditation. Mais il y a juste une seule condition, c'est que vous en fassiez régulièrement. Parce que plus on fait du yoga, plus on fait de la méditation, et plus il y a des effets. Et c'est vrai que les gens qui viennent une fois par semaine, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà bien, mais si vous pouviez en faire tous les jours, un petit peu de yoga, un peu de méditation tous les jours. Moi, quand je suis allée en Inde, ou dans les ashrams, ou dans les temples, ou dans les monastères bouddhistes, eh bien, je méditais tous les jours, tous les jours, tous les jours, à l'ashram, tous les jours pranayama, tous les jours yoga. Et là, ça donne une énergie, ça donne des choses extraordinaires, ça donne une joie de vivre aussi. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je crois que, voilà, à brûle pour point, je dis ça apporte plein de choses, mais ça apporte surtout, je pense, un bon prof de yoga, vous pouvez le voir, parce que il est heureux. Il est heureux, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'ennui dans sa vie, mais ça veut dire qu'il prend les choses du bon côté, ça veut dire que voilà, qu'il sait rire et qu'il sait se détendre et qu'il sait qu'il contrôle pas tout, qu'il lâche prise, quoi. Un bon prof
ça
de yoga.
Ça amène plus de sérénité.
Voilà, ouais. C'est ça. Et voilà. La sérénité, c'est lâcher prise, c'est pas vouloir tout régenter, c'est s'adapter, et puis c'est rire par moments. Et puis, c'est se redécouvrir son âme d'enfant. Par exemple, le Swami, quand je suis avec lui, quelquefois, il me surprend parce qu'il a des plaisanteries d'enfant, il joue comme un enfant, il a un rire, vraiment comme un enfant, quoi. Et je crois que c'est ça, la méditation, le yoga, ramène à son état d'enfant, à son être d'enfant et de simplicité, de joie, de voilà. Et le pranayama aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on pleure pas, hein. Quand on fait de la méditation, qu'on fait du yoga, waouh, qu'est-ce que j'ai pleuré, ça nettoie. Et on sait même pas pourquoi on pleure. Alors au début, c'est vrai, on pleure pour son histoire. On a tous eu des histoires. De toute façon, son histoire, on la regarde d'une façon ou d'une autre. On peut avoir une histoire dramatique ou on peut avoir une histoire merveilleuse. Alors c'est vrai que dans toute histoire dramatique, il y a une histoire merveilleuse. Dans toute histoire merveilleuse, il y a des choses aussi difficiles. Donc, essayons de voir le bon côté aussi, même de notre histoire qui même peut-être est difficile.
Dans un film indien, Indian Palace, ouais.
Oui.
À un moment donné, il dit, soit je gagne, soit je reçois l'enseignement.
Voilà.
Ça, donc, on perd jamais, en fait. C'est soit on gagne, soit on a un enseignement à la clé, de toute façon, dans la vie en général.
Voilà.
Donc,
voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'enseignements si on est prêt à s'ouvrir et à accueillir ce qui se passe. Bon, alors, je crois qu'on a dépassé une heure, là. Alors, je vous remercie beaucoup d'être venu et d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous, Catherine et Julie.
Merci aux auditeurs. Merci, c'était super.
Merci,
et puis,
merci pour ces anecdotes.
Voilà.
Merci pour tous tes enseignements.
Vous êtes adorables. Alors, voilà, merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous.
Ouais.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir au mois prochain. À bientôt. Et ça sera sur la nourriture. Au revoir.